les trous, parle moi donc ton fétiche, je te parlerai peut-être du mien, ça fait monter lui l'hydraulique à ta gaule, la papine à la pain. Jigadou, jigadou, un petit goût de jigadou, c'est reparti à vivre en fou, ça roule comme une bille, comme un rue, je sais que ça prendrait plus pour être heureux, comme une bille, comme un rue. Je sais que ça paraît plus pour être heureux. Pour faire du folk agricole, même la poésie pour Satan. Les prérequis sont pas stressants, faut rien que tu restes dans le fond du rang. T'es bien correct quand le troc à vidange se vire dans ta cou. Quand tu retrouves ton chat, pogné d'un piège à vous, recueille. Dans ma poche, qui veut te gratter à contre. Que le seul moyen d'ouvrir ta course, c'est d'acheter de la machinerie lourde. Quand tu peux bien faire l'amour, rappelons à toute heure du cours. Sans faire freaker tes voisins, n'importe où c'est ton terrain.
1, 2, 3, 4
Un petit coup de gigalou. Une petite couche, tu es la mouche, c'est reparti en fou. Cloche en deux. Je sais que ça paraît plus pour être heureux. Parti en fou. Je sais que ça prendrait de plus pour être heureux. Pour faire du faux, ça
trappe,
traite dans le stage. Il y aurait même assez grand pour faire le gars au fest de Saint-Nazaire. Saint-Moi la bois, du place à foule pour Christ de part, t'es où si tu le veux. C'est le gars au sang, le goût d'or, le single malt qui coûte un bras, me tire comme dit à tes jardins. Bien qu'il sait qu'on est bien. Au moins, quand il écrit son refrain, il était chelou, c'est bien certain. Malgré la surveillance par caméra, le propriété privée, le chasseur à l'affût, le chien méchant, la guide barrée. Celle qui, quand ta vie va, t'en grince une shot. Un petit goût. C'est parti à vivre en fou, ça roule comme une mille, comme un œuf. Je sais que ça prendrait plus pour être heureux, comme une vie, comme un œuf. Je sais que ça prendrait plus pour être heureux, comme une vie, comme un œuf. Je sais que ça prendrait plus pour être heureux, comme une vie, comme un œuf. Je sais que ça prendrait plus pour être heureux. Comme une bille, comme un œuf. Que c'est que ça prendrait de plus pour être heureux?
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeons le monde pour Black Halo. Appelle-moi la Lyon, c'est chaud.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi 18h30
au 94.3.
Shiz.
Oh yeah, Shiz.
Le meilleur beat, Beatnik Show, man. Je te le dis, c'est malade.
Si vous êtes comme moi, vous aimez la navigation durant l'été. Mais trop souvent, la consommation d'alcool peut transformer ce plaisir en tragédie. Près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada impliquent de l'alcool. La navigation avec facultés affaiblies, c'est de la conduite avec facultés affaiblies. Si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies, n'hésitez pas à contacter le 911. Ensemble, nous pouvons rendre nos cours d'eau et nos routes plus sécuritaires. Pour en savoir plus sur la navigation avec facultés affaiblies, visitez mad.ca.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Shiz 94.3.
Bon dimanche, 11h30. Exceptionnellement, nous sommes un peu d'avance cette semaine puisqu'il va y avoir le match des Rouges et Or tout de suite après que nous vous invitons à aller écouter. Je vous en profite aussi pour féliciter Radio Futura qui a fait son radiothon la semaine dernière et qui ça semble avoir été quand même un franc succès. Donc, félicitations aux collègues. Et j'en profite pour saluer tous les gens de la station radio de Chiz au 94.3. On s'est vus donc vendredi dernier. C'était l'ouverture de la saison d'automne. C'était fort plaisant d'être avec vous, on est effectivement très bien entouré à la station de radio. Ce qui me fait penser que j'en profite pour vous mentionner qu'actuellement, des Kiwis et des Nerds est en période de recrutement. Si vous souhaitez devenir chroniqueur ou chroniqueuse, que ce soit jeux vidéo, films, bref, vous pouvez vous essayer, vous lancer et on est des gens très sympathiques. Avec moi aujourd'hui, donc, j'ai François Carrier qui est notre chroniqueur de jeux de société. Bonjour François.
Bonjour, bonjour.
J'ai Mick Landry qui, ici, aujourd'hui, n'est pas présent pour nous faire une chronique, mais qui est là pour nous parler de Dédale et Magie.
Eh hey oui, bonjour.
Et il est accompagné de ses deux actrices, dont Maya, que vous connaissez.
Allô.
Bonjour à toi, Ashley.
Allô.
Donc, très heureux de vous rencontrer tous. Pour rappel, parce que là, on doit avoir modifié un petit peu la routine de nos auditeurs. Il y en a qui vont peut-être pas nous écouter avant encore une trentaine de minutes. Des Kiwis et des Nerds, c'est une émission où l'on parle de jeux vidéo, de jeux de société, où l'on va aussi parler de films, du style des films Marvel et de notamment Donjons et Dragons. Donc, j'en profite pour me représenter, Jérémy Thibault. Je suis animateur de Donjons et Dragons à temps plein. Et ça va être une excellente transition pour commencer avec nos anecdotes. Donc, de mon côté, on a recommencé les parties et je tiens à dire que je sais pas ce qui se passe avec les gens de ta génération, Maya, mais la quantité de bardes que j'ai eu cette année là, est particulièrement élevée. Comme y a pas de barbares, y a pas de comme qu'est-ce qui se passe. Je veux des détails. Là. Qu'est-ce qui vous arrive?
C'est parce que les bardes c'est très bien les bardes.
C'est une excellente classe, on va se
le
dire.
C'est la meilleure classe les bardes, c'est pour ça que.
Ouais, ben c'est une classe qui est le fun puis qui est un peu touche à tout au final. Donc je pense que c'est aussi.
Ben il y a aussi le fait qu'en 5e édition à Donjon Dragon, la Dex est la meilleure stat du jeu.
C'est vrai que.
Puis le barde est basé sur charisme Dex, donc forcément ça fait un touche à tout qui est capable de tout bien faire.
Ouais. Tout à fait. Ben, en fait, c'est le principe du bard, là, le Jack of all trades, qui lui permet de littéralement tout faire. Mais sans plus tarder, donc, tu étais en train de nous parler de 5e édition de Donjons et Dragons, ce qui nous amène à dire Donjons et Dragons, Dédale et Magie. J'ai l'impression qu'il y a un lien, Mick. Peux-tu nous en faire part?
On le voit d'ailleurs dans la typographie que j'ai choisie, les couleurs aussi, du blanc sur du rouge. Donc, ça rappelle le logo de Donjons et Dragons. Dans le fond, moi, j'ai fait une web-série qui parle de quatre héroïnes. Quatre jeunes filles qui restent coincées dans un jeu qui ressemble à Donjons Dragons, qui s'appelle Dédale et Magie. Donc, elles sont coincées dans cet univers-là, un peu comme Jumanji à l'époque avec Robin Williams. Et puis, elles doivent surmonter des épreuves que le maître de jeu leur envoie pour pouvoir avoir une chance de le rencontrer et de sortir de ce jeu diabolique.
Formidable. Et Dédale et Magie, donc, comme tu nous disais, c'est une web-série. C'est une web-série... De quelle façon, de quel style? Est-ce qu'on est plus dans Noob à l'époque des débuts de YouTube ou est-ce qu'on est plus dans de la web-série du style que Salut Gadou avait été, notamment?
En fait, moi, quand j'ai regardé Noob, je me suis dit, bon, eux autres, ils ont fait ça, je suis capable de faire quelque chose qui s'apparente à ça. Puis je suis un grand fan aussi d'Edouard Tremblay, Tommy Sitchum, là, qui font Faradar, qui sort bientôt. Donc, je me suis dit, toutes les planètes s'alignent pour que je fasse ma web-série sur l'univers Donjons Dragons, mais je voulais pas aller dans les copyrights, puis ça, les droits d'auteur. Puis je me suis dit, en même temps, je vais créer un univers de Dédale et Magie où ce que je vais pouvoir greffer toutes mes passions de créateur là-dedans, c'est-à-dire jeux vidéo, jeux de société, peu importe, je vais faire des produits dérivés de ça. Donc, d'où qu'est née la web-série qu'on a tournée cet été.
Donc, c'est un univers transmédia parce que tu m'en parlais tout à l'heure, mais tu as l'intention de peut-être éventuellement installer un jeu de cartes, peut-être tu veux rajouter des choses autour. Là.
Exactement. Dans le fond, moi, je fais un univers qui va permettre, entre autres, que je fasse toutes mes créations par rapport à cet univers-là, mais aussi je veux avoir une communauté qui se rattache à ça. Des gens qui aiment ce que je fais, puis parce que quand on est un créateur, ce qui est difficile, c'est de rejoindre sa clientèle, rejoindre les gens. Donc, C'est pour ça que je me tourne aussi vers la plateforme qui est YouTube. Et les gens vont pouvoir l'avoir totalement gratuitement, mm-hmm. ce qui va être fort intéressant. 19 épisodes de 3 à 5 minutes. Et c'est bâti un peu sous le principe Kaamelott, en ce sens que on débute une histoire, on a un développement, puis on a un cliffhanger qui nous laisse sur la fin. Donc, on a toujours le goût d'aller voir le prochain épisode.
Mm-hmm. Fait qu'au final, c'est... comment on dit déjà, j'ai pas le temps d'écouter une émission d'une heure, mais j'ai le temps d'écouter 10 fois une émission de 10 minutes.
Exactement. Ben, sur ton cellulaire, t'es dans le bus, t'écoutes la prochaine épisode, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. 3 à 5 minutes, c'est pas trop engageant, puis c'est le fun.
Ouais. Puis, parce que là, tu dis que c'est une web-série que tu as l'intention de la passer sur YouTube, mais je crois avoir eu rumeur des oui-dire qu'on allait aussi la voir ailleurs.
Ben oui, tout à fait. C'est que moi, je me suis dit, bon, 19 épisodes, 3 à 5 minutes, si je mets tous les épisodes d'un seul coup, ça fait un long métrage. Mm-hmm. Et ce long métrage-là, je vais le diffuser une seule fois dans sa vie. Donc, ça va être au cinéma Le Clap à Sainte-Foy le 6 novembre prochain à 19h. Les billets sont en vente sur le pointdevente.com. Il s'agit de trouver Dédale et Magie, ça va sortir tout de suite. Puis les places sont très limitées, donc...
Jetez-vous rapidement là, sur la page Facebook. On a déjà une trentaine de gens qui ont mis participe, pas intéressé, participe. Ça va partir vite. Là.
Puis je ferai peut-être le lien aussi. Venez nous voir au Comic-Con de Québec.
Ouh,
on est là, donc mois d'octobre, 8 et 9 octobre, on est là avec nos actrices aussi. Puis venez nous rencontrer, puis on va vous expliquer comment on a trippé dans le projet puis tout ça. T'sais.
Ben justement, pouvez-vous nous en parler un petit peu de comment vous avez trippé, notamment les actrices? Donc on a Maya Fizek, vous connaissez si vous écoutez des Kiwi et des Noises, parce que c'est une de nos chroniqueuses récurrentes, une de nos jeunes chroniqueuses. Et donc on a aussi Ashley Mercier, qui est présente avec nous, première fois à la radio, je crois, pour toi, Ashley?
Oui.
Superbe. Donc, on va être ton baptême du feu. Donc, comment est-ce que c'était l'expérience d'Edal et Magie en tant qu'actrice?
Ben moi, je dirais que c'était quand même le fun.
Ben oui, c'était vraiment cool. Puis, on a vraiment... On se connaissait pas avant, fait qu'on a vraiment développé une belle gang. Puis, c'était vraiment... On a vraiment tourné à des beaux spots. Puis, ce qui est le fun, c'est que... Il y a beaucoup d'effets spéciaux là-dedans. Fait que quand on tourne, on ne sait pas toujours la direction que ça va aller après parce que c'est tout dans la tête à Mick. Fait qu'on va avoir plein de surprises quand même au visionnement après. Puis ça va être...
Ben c'est ça, même vous, au final, vous savez pas, contre qui vous vous battiez, là, peut-être.
Ben, on le savait, mais de quoi que ça va avoir l'air après...
plus concrètement.
Ouais, on l'a pas vu encore, on sait pas à quoi il ressemble.
Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de fonds verts sur le tournage ou vous avez aussi des effets pratiques? Ça ressemblait à quoi, de ce côté-là?
De ce côté-là, je voulais pas aller vers le fond vert parce que c'est difficile d'avoir un bon fond vert, surtout qu'on parle d'une production indépendante sans budget. Là. Mm-hmm. Donc, je me suis tourné vers mes capacités de programmeur de jeux vidéo, puis je suis allé avec l'engine Unity, mm-hmm. avec de l'intégration carrément. Je suis allé payer des modèles 3D. Je les ai fait jouer dans Unity, j'ai enregistré ça, puis j'ai intégré ça. Donc, entre autres, il y a un dragon dans la série. Mm-hmm. Donc, je l'ai intégré comme ça.
OK. Ben, dragon qu'on peut voir dans la bande-annonce que je vous invite à aller voir d'ailleurs, qui est sorti, que nous allons aussi partager sur la page Facebook. Mais justement, vous disiez que c'était le fun, que vous aviez appris à vous connaître. Il me semble qu'il y a un fort sentiment de camaraderie qui s'est installé sur le tournage. Si on vous suit un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça aller. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé? Qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué sur le tournage?
Ben, je sais pas trop, mais je dirais que justement, l'aspect on est des aventuriers, puis même dans l'histoire à la base, on s'aime pas vraiment. Je pense que ça fait vraiment que comme tout le monde a réussi à peu se parler puis se connaître avec les tournages. Puis
il y a aussi, on dirait qu'on fait un peu avec nos personnages. Comme Maya, elle, son personnage, il connaît ça, les jeux comme Donjons Dragons. Mais moi, mon personnage, Fate, elle sait pas tout c'est quoi. Puis moi, depuis tantôt, vous parlez des jeux, j'ai aucune idée c'est quoi.
On est en train de te faire découvrir l'univers.
Oui, ouais, c'est ça. Je fais bien avec mon personnage. Puis c'est ça.
Fait que vous avez un peu évolué en même temps que vos personnages, c'est ça que je comprends. Les...
Ouais. Puis il y a vraiment aussi, plus que l'histoire avance, plus que nos personnages deviennent vraiment une équipe. Puis ça a été ça aussi pendant le tournage. Mm-hmm. Au début, on se connaissait pas, mais en passant une couple de jours de tournage ensemble, c'est sûr que là, on devient plus proche.
Ben oui. Puis comme tu disais, vous avez un peu évolué en même temps que vos personnages. est-ce que tu l'aimais, ton personnage? Comment est-ce que c'était de représenter? Parce que je crois que tu as aussi une formation d'acting à l'ECTQ.
Oui, j'ai été dans la session automne 2021 à l'ECTQ, l'École de cinéma et télévision de Québec. Puis j'ai rencontré Mick à Kino, qui m'a parlé du projet, puis j'ai vraiment trouvé ça cool, intéressant. Puis il me parlait que je préfère la guerrière, puis j'aimais vraiment ça l'idée. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il m'a parlé d'un personnage qui avait un pouvoir de feu. Là, j'étais comme, hey, mais là, je veux faire du feu, moi aussi. Puis là, il dit, ah oh, non, mais c'est parce que tu fais pas geek. Là, j'étais comme, ok, c'est correct.
Non, effectivement. Ben, déjà, Maya, on est un peu plus geek, là, notamment parce que ben, tu viens à l'émission quand même sur une base ouais, régulière. Puis, je veux dire, je t'ai rencontré avec du Donjon Dragon. Là.
Oui.
Mais non, effectivement, c'est ça aussi qui est un peu, pas pernicieux, mais qui est particulier avec l'univers du cinéma et l'univers de la websérie, c'est qu'on a des attentes par rapport à quoi un personnage va ressembler physiquement, particulièrement si on est dans ce qui va toucher le jeu de rôle. On parlait de Farador tout à l'heure, mais Farador, c'est ça, là, je veux dire, lorsque tu regardes Tom et ses chums, ils ont pas mis des bodybuilders ultra baraqués autour de la table, même si de nos jours, ça doit arriver peut-être un peu plus souvent. Là, j'ai entendu dire que The Rock aurait déjà fait du D&D, mais je pense pas que son activité principale non plus. Mais à ce sujet-là, donc, vous êtes issu un peu du milieu du cinéma. Qu'est-ce qui vous avait amené à vous embarquer là-dedans? Puis particulièrement pour toi, Ashley, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'embarquer dans un projet comme Dédale et Magie, même si tu n'es pas nécessairement geek?
Ben en fait, j'ai toujours aimé les films, exemple Marvel, Jumanji, justement, où c'est que c'est vraiment des... Ça sort de l'ordinaire. Mm-hmm. Puis les personnages, tu vas pas voir ça, mettons, ben, un tu jeu vois vidéo. Tu revois pas ça souvent, là, à des films comme ça. Puis dedans, les magies, ça sort de plein de mélanges de styles. Puis j'aimais ça, l'idée. Puis c'est pas dans tous les films que tu te battes avec un dragon. Là.
Non, au final, ça sort de l'ordinaire. Même si dans les prochaines années, il y a déjà un film Donjon Dragon qui a été annoncé, il y a une couple d'affaires qui s'en viennent. Là. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne hype de ce côté-là. Mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que vous aviez des anecdotes de tournage à me raconter? Parce qu'on parlait de camaraderie tout à l'heure, du fait que finalement c'est Maya qui a eu le rôle qui t'intéressait parce que tu faisais pas assez geek. Est-ce qu'il s'est passé des trucs cocasses? Donnez-nous un peu le behind the scenes.
Ben, j'aimerais ça dire que je trippe sur mon rôle aussi, premièrement. C'est pas parce que je fais pas de feu que je l'aime pas. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Mélina, celle qui joue Chloé, la druidesse, elle a un bâton de druidesse en bois.
Ouais, elle a développé une petite dépendance, hein?
Oui, Mick a brûlé le bâton pour faire des dessins dessus, puis le bout il est tout brûlé. Puis elle s'est rendue compte, à la troisième journée de tournage, qu'il sentait bon. Puis elle s'est mise à juste toujours le sentir, puis même qu'elle s'accotait dessus, mettons, vraiment à côté du nez, puis elle pensait qu'on se rendait pas compte qu'elle le sentait, mais c'est pas subtil pantoute.
Mettons, pendant une scène, où est-ce qu'elle parle pas, ou à l'affaire, tu la vois, elle est juste à côté de même, puis elle est comme...
Ouais, fait que ça se peut que vous le voyez dans la série.
Bon, en même temps, c'est bon, c'est pas. Je trouve que c'est. En tout cas, je connais pas tout le personnage, mais c'est un personnage de druides. Je peux facilement voir comment que ça peut être dans le personnage.
Ouais, connecté avec la nature.
Elle a même trouvé des bouts de bois brûlés dans la forêt, justement, puis elle les sortait, puis elle était comme, non, ils sentent pas bon.
Non, non, c'est pas aussi bon. Fait que là, on a dit à Mick, là, fais-y un petit collier avec ça, là. Ouais, comme si un petit
collier
bois
de pyrogravure, là.
Es-tu reparti avec le bâton? Ben, tu l'as gardé parce que c'était un props, mec?
Je l'ai gardé parce que c'était un props, puis j'espère bien faire une saison 2, saison 3. Donc, je vais probablement lui faire un petit quelque chose dans le bois, là, juste pour elle, pour dire. Hein.
Encore une fois, une phrase à ne pas prendre hors de contexte, je vous en prie, chers auditeurs. Mais justement, parlant de choses qui sont dans le bois, c'est quoi l'histoire du dévin?
Oui, vas-y.
Ben, en gros, vu que c'est un peu Donjon et Dragon, faut lancer un des vins parfois. Mais il y a des hautes herbes dans le bois. Et on a perdu le des vins dans les hautes herbes. Et ça nous, on était, je pense, 6 à le chercher. Puis ça nous a pris comme 15-20 minutes à le retrouver. Puis on a pu relancer le des vins après.
Puis c'était assez catastrophique parce que cette boîte de dés-là, c'est des dés particuliers commandés sur Amazon en édition limitée. Mm-hmm. Donc, si on perdait le fameux D20, la série pouvait en souffrir beaucoup.
Ah,
fait qu'on était tous là de façon frénétique à arracher l'herbe puis à chercher le fameux D20. Comme l'anneau de pouvoir aussi qu'on a perdu dans la scène de nuit où ce que quelqu'un que je dirais pas de ses maillots, là, mais l'a échappé malencontreusement parce que la bague est trop grande pour elle. Puis on la cherchait de façon frénétique parce qu'on était toutes crevées parce que c'était une scène de nuit, on voulait terminer.
Donc... Là, on se rapproche du Seigneur des Anneaux avec ton anecdote. Je trouve un anneau unique qui est trop grand.
J'aimerais ajouter que quand on a perdu le dévin, je me rendais pas compte que moi, ce dé-là était plus important que les autres sans savoir c'est quoi un dévin.
Ouais, ben justement, est-ce que tu comprends un peu plus l'univers de Donjons et Dragons maintenant que tu as fait des dalles magie? Parce qu'il doit y avoir des parallèles quand même à faire. Est-ce que ça t'a intéressé ou t'es encore un peu en dents de scie de ce côté-là?
Ben, demande-moi pas de te faire un résumé, mettons.
Mais moi, par rapport à ça, ce que j'aimerais beaucoup, si mes actrices sont disponibles, c'est faire sur Twitch ou quelque chose comme ça, une partie Donjon Dragon avec les actrices et leurs personnages. Ça serait vraiment trippant, tu sais. Puis tu pourrais venir jouer Jérémy.
Moi, je suis tout le temps partant pour faire du D&D. Ouais, cool, le gars, il en a fait son métier. S'il aime pas ça, il y a quelque chose qui va pas bien. Dans la liste des métiers qu'il faut que t'aimes ça si t'en fais, là, je pense qu'on est pas mal là-dedans. Superbe. Mais là, pour en revenir sur le sérieux par rapport à la web-série, ça l'a impliqué quoi, ça, en termes de coûts, de matériel, sans entrer dans les détails, parce que c'est quand même entièrement bénévole, puis jusque dans une certaine partie, c'est auto-financé.
Oui, exactement. Donc moi, j'ai mon entreprise, les productions du QG. Je fais toutes sortes de choses avec ça, dont du cinéma et de l'édition. Et puis, dans le fond, moi, j'ai calculé le budget, puis je suis allé cogner à des portes, voir pour les subventions, mais c'est excessivement difficile mm-hmm. de subventionner des films indépendants comme ça, surtout les web-séries. Mm-hmm. Et puis, bon, j'avais calculé que si je payais tout mon monde, etc., c'était un budget de 100 000 que ça me prenait. Mm-hmm. Mais avec une coupe de 1000 piastres puis de la bonne volonté de tout le monde, ben puis c'est un peu dans la lignée de Kino aussi, faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais surtout le faire maintenant. Mm-hmm. Ben moi, j'arrivais à mes 40 ans, je me suis dit, je me paye la première saison. Puis les gens me disaient tout, va en socio-financement avec ça. Mais non, pour moi, c'est pas logique d'aller en socio-financement si j'ai pas de quoi à montrer à mes gens. Mm-hmm. Là, j'ai la saison 1 à montrer, puis en saison 2, là, on va essayer d'aller en socio-financement.
C'est ça, là, ça a du sens. Maintenant qu'il va y avoir des gens, il va y avoir des fans, des gens qui vont connaître, fait que là, ça devient intéressant.
Exactement. Puis on va savoir aussi si ça vaut la peine de continuer, en ce sens que si les gens embarquent pas, ce qui est pas le cas, c'est les gens embarquent déjà, là, mais tu sais, ça va me donner une jauge là, pour savoir si on poursuit, puis jusqu'à quelle saison qu'on sera là-dedans. T'sais.
Parce que t'as l'intention d'en faire quand même un projet long, là, un peu dans le même style que nous. Nous, je pense qu'il est rendu à sa saison 9 ou 10. Là.
Oui, oui, tout à fait. Moi, mon but, c'est de faire 3 saisons minimum, puis d'avoir des saisons parallèles aussi, parce que c'est un univers, comme je disais.
Ouais, transmédia.
Puis, exactement. Puis, j'ai écrit des Dalles et Magie avec ma femme aussi, puis on a pensé à ce concept-là qui permet aussi de changer d'univers. On peut aller dans le science-fictionnel avec le concept de Dalles et Magie. Dans le fond, c'est des gens prisonniers dans un jeu un peu comme Jumanji. Donc, ce jeu-là va pouvoir évoluer vers du science-fiction, post-apocalyptique, etc. On va pouvoir s'amuser beaucoup.
Ouais. Ben ça fait un beau terreau fertile. Un exemple qui me vient en tête, qui lui vient de l'industrie du manga japonais, Araki, qui fait la série JoJo's Bizarre Adventure. D'une saison à l'autre, on n'est plus du tout dans la même catégorie, dans le même genre. Là, la première saison, on est dans l'ère victorienne un peu, il y a des vampires. Dans saison 2, on part dans un délire à l'américain où ce que là, c'est les gros guns puis les explosions. Puis la saison 3, c'est littéralement c'est un body movie. Là. On part dans un road trip puis ils s'en vont autour du globe. Fait que c'est ça qui est le fun aussi avec Dédale et Magie, c'est que vu que c'est un beau terreau fertile, ben tu peux prendre un peu toutes les directions parce que là, ils sont prisonnières d'un univers qui est similaire à Donjons et Dragons, oui. Mais ils peuvent tout aussi bien devenir prisonnières d'un univers qui va appartenir à
autre chose. J'ai le petit fantasme de faire une saison juste de pirates, là. Mais en tout cas, ça, c'est...
Ouais, mais là, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Faut trouver le bateau, puis on a entendu tout à l'heure, avant que l'émission commence, que 50% des décès en bateau sont dus à l'alcool. Donc, pas d'alcool, messieurs, dames.
Non, exactement. Puis, si on parle encore de ressources, ça a été tourné dans Portneuf, dans des beaux lieux. Donc, ouais. On a sur le bord du fleuve avec un moulin qui fait comme une tour de magicien. On a aussi dans la fameuse grotte du Trou du Diable à Saint-Alban. On a aussi dans le Canyon à Saint-Alban. Donc, on a vraiment des beaux lieux à vous faire découvrir dans Portneuf.
J'invite les gens qui nous écoutent en ce moment à taper... Ben, sortez de votre voiture en premier, mais à aller googler Trou du Diable Saint-Alban. C'est quand même un bel endroit, là. Puis c'est une attraction qui est touristique au final.
Oui, tout à fait. On peut aller là, réserver sa fin de semaine et aller visiter le fameux Trou du Diable.
Puis parlant de réserver sa fin de semaine, je pense qu'il y a eu une réservation de chalet à un moment donné pour un tournage.
Ah oui, est-ce
tout
à fait.
Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui avait été tourné là-bas à ce moment-là?
Je vais laisser les filles parler.
On a tourné... mais la grande partie du tournage s'est passée quand on était au chalet. Ouais. Mm-hmm. On tournait des journées. Des fois, c'était plus long un peu. On commençait le matin, on allait tourner justement à la grotte du Trou du Diable. Puis jusqu'au soir, on tournait sur le bord du feu. Puis Maya part sa bague, fait que ça allait tirer un peu.
De là aussi, je pense, le sens de camaraderie qui est venu. Là, parce que quand on est ensemble sur des plateaux de tournage pendant de longues périodes de temps, ce qui est quand même usuel aussi, j'ai envie de dire, là, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque tu es sur un plateau de tournage, disons, plus professionnel ou alors dans un plateau de tournage qui est restreint en termes de temps, c'est pas rare qu'on fasse des journées de 24-25 heures. Puis oui, j'ai dit une journée de 25 heures.
Puis aussi, on avait une belle commandite du restaurant Saint-Alfred là, à Portneuf. On mangeait super bien en énorme quantité. Ça fait que là, ça allait bien. Ouais. Puis le lieu que j'avais loué, c'était l'éco-chalet à Saint-Alban, que je recommande à tout le monde. Un lieu pour 12 personnes. Puis on était tous assis autour d'une grande table. Puis on mangeait. Puis c'était vraiment... c'était des vacances en même temps.
Ouais. Mm-hmm. Ça reste que vous travaillez, mais le but, c'était d'avoir du fun, c'était d'avoir du plaisir. Puis je pense qu'on en a eu beaucoup de ça, là, du fun, du plaisir, du sentiment de camaraderie. Puis au final, n'est-ce pas ce pourquoi le jeu de rôle existe?
Exactement.
Donc, on est quand même là-dedans. On parlait de belles choses tout à l'heure. T'as une illustratrice pour Dédale et Magie. Oui. Peux-tu nous la présenter? Est-ce qu'on va pouvoir publier les images de vos personnages sur notre page Facebook tout à l'heure?
Oui, ben ce qui est particulier, c'est que Dédale et Magie est, je dirais, un tiers tournée réelle, un tiers animation, puis un tiers podcast. Mm-hmm. Donc, le tiers animation, c'est pas de la grosse animation, là, c'est vraiment juste comme on se représente des figurines de Donjons Dragons qui bougent, puis qui a des pif-paf. On se représente une game de Donjons Dragons. Puis c'est pas une illustratrice, c'est un illustrateur.
Oh,
c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Philippe Plante de Totalement Geek. Lui, il y a une page où ce qu'il parle de choses geek. Là. Ça fait que vous pouvez aller voir ça sur Facebook. Puis je l'avais approché parce que lui, il fait des dessins que je trouve intéressants en vectoriel minimaliste. C'est-à-dire qu'il va prendre ton visage puis il va faire un personnage avec ça, minimaliste. Puis je trouvais que le look était vraiment intéressant. Puis c'est un gars de Donnacona, c'est un de mes amis.
Fait que ça encourage les artistes locaux au final.
Aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, c'était ma priorité là, de dire autant donner des premières expériences à certaines personnes comme les actrices, donner une expérience de plus dans leur cheminement que dans... du niveau des techniciens, d'encourager ceux aussi qui travaillent régulièrement avec moi, là, comme Éric Laroche à la prise de son, entre autres.
Mm-hmm. Ben, il nous reste encore une minute avant de devoir aller à la pause et de devoir donc passer au prochain sujet. Est-ce qu'il y a des éléments, des choses que vous voudriez nous mentionner? Juste simplement pour rappel, au cinéma Le Clap, donc le 6 octobre à...
6 novembre.
6 novembre, excusez-moi, 6 novembre à 19h, mais arrivé à 18h30 parce que ça commence à 19h.
Exactement, puis après, il y a une période question-réponse avec les actrices, puis moi-même. Et puis aussi, le cinéma, souvent on dit « Ah, j'aimerais ça encourager notre cinéma québécois, etc. » Mais il y a aussi le cinéma indépendant qui est underground. Mm-hmm. Et la façon de nous encourager, ça coûte rien, c'est d'aller s'abonner sur la chaîne. Parce que moi, j'ai besoin de 1000 abonnés pour pouvoir monétiser mon truc. Mm-hmm. Fait qu'aller vous abonner, ça nous rend vraiment service. Puis en vous abonnant, ben vous allez découvrir une belle série.
Tout à fait. Formidable. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Désolé d'avoir déparlé pendant les 30 dernières secondes. Je suis peut-être en train de faire une crise de cœur. Non, pas du tout. Au plaisir de vous avoir vu. On se revoit à la projection donc qui va avoir lieu le 6 novembre.
Oui.
Et d'ici là, vous ferez profiter à nos auditeurs ou nos auditrices de quelques photos, des behind the scenes.
Oui, on vous envoie des petites exclusivités juste pour vous autres, les Kiwis.
Formidable, ça.
Yes.
On n'est-tu pas assez bien entouré? Et donc, on se retrouve après la pause. À tout à l'heure.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. sons de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
OK, attention. 1, 2, 3.
Cheese!
La passe est captée par son receveur. Touché! Rouge et or!
Le Rouge et or reçoit les Stingers de Concordia dimanche sur les ondes de Cheese 94.3. L'équipe de football de l'Université Laval est finalement de retour à la maison et les joueurs voudront en mettre plein la vue à leurs fidèles partisans. Ne manquez pas l'avant-match dès 12h30 en direct du Stade TELUS. Rouge et or, Stingers, ce samedi 13h sur les ondes de Cheese 94.3.
T'es stagiaire postdoctoral à l'Université Laval? Ta convention collective arrive bientôt à son échéance et doit être négociée avec ton employeur, l'Université Laval. Mobilise-toi et tiens-toi informé. Pose des questions, entre en contact avec ton syndicat pour plus d'informations par courriel step@step.ulaval.ca ou par téléphone au 88-656-5990. Oublie surtout pas de suivre notre page Facebook Step Université Laval ainsi que le site web www.infostep.org. Tous ensemble vers la négo.
écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Donc, on vient d'entendre quelques soundtracks de Neverwinter, un jeu qui nous avait été recommandé par François. Et François, donc, le micro est à toi pour venir nous parler de ta chronique jeu de société. Je pense qu'on touche un peu au thème du Monopoly aujourd'hui.
Effectivement, là, je viens vous parler d'un jeu extrêmement obscur, le Monopoly.
Et ça, personne ne connaît ça. Ça demande un truc qui s'appelle de l'argent, il faut comprendre. Moi, je suis un artiste, je connais pas ça, l'argent.
Donc, je viens parler un peu, c'est ça, du Monopoly, et aussi de quel autre jeu, mettons, qui peut lui ressembler, qui peut potentiellement le remplacer. Parce que Monopoly, c'est à la fois un jeu extrêmement connu, donc très apprécié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent, mais autant, je dirais, le jeu que le plus de gens qui l'aiment pas. En même temps, ça vient avec la popularité.
Hein? Ouais, okay. Ben, on en avait aussi parlé la dernière fois, mais puisque c'est un des premiers jeux à être sorti, c'est aussi un jeu qui, au niveau de l'optimisation, c'est pas...
Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup de grandes faiblesses dans ce jeu-là. Puis c'est d'ailleurs un peu de ça que je veux parler aussi. Donc avant, je veux juste commencer par, au cas où qu'il y aura un auditeur qui ne connaît pas c'est quoi le Monopoly, juste le décrire rapidement. Monopoly, donc, c'est un jeu dans lequel on va chacun, donc tous les joueurs vont avoir un pion qui vont déplacer à l'aide de dés sur un plateau. Puis, en fait, on va acheter différentes propriétés puis avoir d'autres cases spéciales qui se passent des affaires. Mais on va acheter les propriétés. C'est vraiment, le jeu est centré là-dessus. Et quand on marche sur la propriété d'un autre, on va devoir le payer, donc lui donner de l'argent. Donc, on veut donc récupérer le plus de propriétés possible, mettre des maisons, des hôtels dessus pour que ça fasse plus d'argent quand les autres marchent dessus. Puis essayer de les drainer à sec de tout leur argent.
Capitalisme, le jeu.
Ben effectivement, d'ailleurs, c'est pas mal l'origine du jeu, que si je fais un petit arté rapide, là, à la base, ça a été fait... Ah, j'aurais dû sortir les noms. Je suis bon là-dedans.
T'inquiète, continue, puis moi, je vais faire assemblant que je sais tout ça, mais en réalité, je m'en vais sur Wikipédia.
Mais ça a été fait par une dame, en tout cas très brillante, qui faisait ça un peu comme une critique du capitalisme à la base. Mais après ça, le jeu a été récupéré par d'autres personnes qui l'ont, après ça, adapté pour qu'il soit un petit peu plus le fun aussi. Là, la première version était vraiment drable.
Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Ça a clairement été réadapté parce que la critique du capitalisme, moi, je l'ai pas vue.
Non, ben c'est ça. Là, c'est que, mais c'est un peu là, pareil. Je pense qu'il y a quand même des au niveau de l'étude de la signification des différentes affaires, ça peut quand même être intéressant. Mais c'est pas là-dedans que je me lance aujourd'hui. Mais c'est plutôt justement... mais c'est ça. Puis là, ça a été adapté, puis après ça, vendu. Puis là, ça a été adapté des milliers de fois.
Des milliers de fois. Là, on a Monopoly Canada, Monopoly Star Wars.
C'est le jeu
Monopoly,
avec le plus de versions différentes. C'est assez impressionnant. Il y en a un pour chaque pays.
Ouais. Puis il y a aussi un Monopoly Stranger Things.
Oh, il y en a pour plein de trucs.
S'il y a eu de
la
hype, ça existe.
Non, c'est ça. Effectivement. C'est aussi simple que ça.
Mais en même temps, ça fait maintenant 87 ans que le jeu Monopoly existe. Ouais. Ça a commencé ça a été publié en 1935. Donc, c'est inévitable qu'il y ait eu des modifications, qu'il y ait eu des changements, qu'il y ait eu des adaptations. Parce que s'il fallait que le jeu soit le même que celui en 1935, déjà, j'ai envie de dire, watch out l'inflation.
Non, c'est ça. Moi, la première chose que je vais vous dire à propos du Monopoly, c'est que, en tant qu'expert de jeux de société, je vous donne le droit d'aimer ce jeu-là. Moi, je l'aime pas. Mais vous avez le droit d'aimer les jeux. On peut aimer les choses même si elles sont pas excellentes, comme dans les films. On peut avoir un film qu'on sait qui est pas bon, mais que tu l'aimes pareil, c'est correct.
Ça s'appelle un plaisir coupable.
C'est ça.
Je tiens à dire que Spy Kids est un excellent film.
Mais si tu veux détruire tes liens familiaux avec tes amis, c'est Monopoly, c'est parfait pour s'obstiner tout le temps.
Ah oui, c'est un excellent jeu pour ça.
Vu qu'il faut détruire les autres, hein, carrément. Oui,
ben, c'est ça. C'est un jeu extrêmement... agressif, mais en fait, c'est ça qui arrive, c'est que c'est un jeu qui est très très connu, fait que la plupart des gens connaissent les règles, puis ont pas l'impression que c'est un jeu tant compliqué, mais dans le fond, Monopoly, c'est un jeu extrêmement complexe, il y a vraiment beaucoup d'étapes puis de choses possibles, puis en fait, c'est un des problèmes de ce jeu-là, c'est qu'il est trop complexe pour ce que ça fait. Des fois, il y a certaines mécaniques qui sont trop complexes pour rien au final. En même temps, qu'il a peut-être voulu être adapté sur des choses qui sont réelles, qui sont très complexes, puis pas agréables comme les hypothèques.
Ouais, l'économie, c'est compliqué. Hein.
Mais c'est ça. Fait que, personnellement, ce que je pense qu'est son plus gros défaut, ça dure beaucoup trop longtemps. Mm-hmm. Donc, le jeu dure trop longtemps. À un moment donné, on sait c'est qui va gagner, puis le jeu dure encore pendant au-dessus d'une heure. Fait que là, ça, c'est un des problèmes avec ça. Si vous aimez beaucoup le Monopoly puis que vous voulez rejouer, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous donner une règle supplémentaire qui raccourcit le jeu. Donc, soit c'est le premier qui sera en temps d'argent, ou d'ailleurs, il y a des nouvelles versions de Monopoly qui ont ce genre de règles-là. Là,
ouais.
Où on joue X temps, puis au bout d'X temps, celui qui a le plus d'argent a gagné. C'est ça. Où on se donne des objectifs spécifiques, puis le premier qui réussit cet objectif-là gagne. En tout cas, il y a plusieurs façons de le faire, mais ce serait mon premier conseil, si vous aimez bien ça, de rapetisser le temps du jeu. Ben, c'est trop long.
Ben, c'est le même défaut dont on avait parlé avec le jeu Civilization en ligne, c'est-à-dire qu'au bout d'une 15-20 tours, t'as compris c'est qui allait gagner, mais le jeu va durer encore pour 150 tours, donc c'est plate de lentement, tranquillement se rendre compte que tu t'en vas vers la défaite puis qu'il n'y a plus rien pour revenir.
Ouais, c'est ça, puis tu peux pas revenir, c'est ça. Ça prend une mécanique de retour quand on a justement un jeu comme ça où il y a quelqu'un qui a tendance à prendre trop d'ampleur, de snowball, comme ils disent en anglais. Donc, l'effet boule de neige, donc, qui vient de plus en plus fort, ben, il faut avoir une mécanique qui fait que, ah ben là, si t'es en arrière, t'as de quoi, un bonus que tu peux avoir, un coup de chance qui fait que tu peux te ramener, parce que sinon, c'est pas intéressant de juste jouer pour perdre.
En même temps, on parlait de critique du capitalisme, j'ai envie de dire, ça, c'est quand même une forte critique du capitalisme. Hein? Plus t'as d'argent, plus t'as d'argent.
C'est ça, puis il n'y a pas moyen de t'en tirer. Mais en fait, même techniquement, le Monopoly est un petit peu plus socialiste que la vraie vie parce que chaque fois que tu passes par Go, tu gagnes de l'argent. Fait que... c'est ça. Mais c'est ça. Fait que ce que je dirais aussi...
C'est très politique, le Monopoly, quand on y pense.
Ah oui, ben d'ailleurs, mais c'est ça. Il a été créé dans un contexte très politique. Fait que c'est sûr que c'est normal qu'on voit un peu de cette politique-là dans le jeu lui-même. Puis c'est ça. Comme je disais tantôt, donc c'est un jeu que vous avez le droit d'aimer, puis surtout qu'on peut avoir beaucoup de nostalgie, ou on peut aimer certains aspects du jeu. Donc là, moi, c'est ça que je pense que c'est là que c'est intéressant, puis c'est là que je peux venir vous aider. C'est quand de regarder ensemble, c'est quoi les aspects du Monopoly que vous aimez, et quel autre jeu on peut avoir qui vient rechercher ces aspects-là, mais que je trouve d'une manière mieux exécutée. OK? Donc, mon premier exemple que je donne, en fait, là, moi, au pub, quand les gens me disent « Ah, nous, on joue... À quoi vous jouez? Ah, on joue Monopoly, c'est pas mal ça. » Un jeu que j'amène, moi, souvent, c'est Marrakech. Donc, Marrakech, c'est un jeu, déjà, qui va être beaucoup plus rapide, ça se joue en dedans d'une heure, et beaucoup plus simple. Marrakech, contrairement à Monopoly, on va avoir tout le monde le même personnage, donc on a un personnage qui va se promener sur le jeu, qu'on le bouge chacun notre tour, et puis... on va placer des tapis sur le jeu. Fait que à chaque tour de jeu, c'est ça, on lance le dé, on déplace le bonhomme, on met un tapis. Et puis, si on marche sur le tapis d'un autre joueur, donc si si le bonhomme termine son tour sur le tapis d'un autre joueur, ben là, il faut donner de l'argent à cet autre joueur-là. Fait qu'on voit quand même, il y a plusieurs aspects qui font penser au Monopoly. C'est simplement ça, le jeu. On va se déplacer, on va mettre des tapis. Quand on marche les tapis des autres, on donne de l'argent. Donc, si c'est ce côté-là que vous aimez de Monopoly, ou ce que j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai juste envie de déplacer un pion, échanger de l'argent, puis en plus, il y a des beaux petits tapis.
Exact. Ben, effectivement, c'est de se concentrer sur un des aspects de Monopoly, puis dire, OK, j'ai vraiment aimé cet aspect-là, on y va à fond.
C'est sûr que si tu dis, bah, j'aime tous les aspects Monopoly, pour moi, ce jeu-là est parfait, mais tant mieux.
Joue à Monopoly.
Je veux dire, joue. T'as le droit d'aimer ce que tu veux aimer. Là. C'est ça. Mais si ce que j'aime, c'est ça, c'est le fait de lancer le dé, me déplacer, donner de l'argent, ben Marrakech, je pense que c'est un excellent jeu pour ça. C'est un des jeux que je présente souvent aussi, puis qui s'explique bien, parce que c'est un des problèmes, une des raisons pour lesquelles les gens ont souvent peur d'aller vers des nouveaux jeux, c'est que c'est pas tout le monde qui a les habiletés ou qui est à l'aise d'expliquer un nouveau jeu, puis des fois, ton entourage, ils veulent rien savoir d'apprendre un nouveau jeu.
Oui.
Fait que d'avoir des jeux avec des règles plus simples, ça l'aide, mettons.
Tout à fait.
Puis ça se joue très bien avec des enfants aussi. C'est un jeu aux règles assez simples.
C'est familial.
Ouais, c'est ça. Donc, un jeu, donc les deux objectifs, c'est ça. Avoir le plus d'argent possible, puis avoir le plus de tapis sur le dessus. Mais aussi, en cours de partie, on peut recouvrir les tapis des autres. Donc, peu à peu.
Tu mets ton tapis par-dessus.
Ouais, ben c'est ça. Fait que là, t'as un petit peu un aspect compétitif de je mets mon tapis par-dessus le tien, tu sais, en tout cas.
Fait que c'est une autre phrase que si tu sors du contexte des jeux, ça devient tout de suite plus bizarre.
Non, c'est ça. Il y en a beaucoup des comme ça.
Ouais, moi, c'est juste l'image de quelqu'un qui débarque chez moi, qui fait qui met un tapis par-dessus mon tapis, qui est juste comme what the fuck, puis qui s'en va.
C'est sans compter les allergies au tapis.
C'est ça, la strat. Bref.
Donc, pour un autre jeu dans ce même vibe-là, un petit peu, puis qui est d'ailleurs un vieux jeu aussi, qui est le Château La Fortune, je dirais, qui est un autre exemple qu'on a au Randolph. Donc, c'est un jeu dans lequel on va se déplacer sur une piste autour, puis on a chacun un hôtel, puis dans le fond, on va lancer deux dés, un dé qui fait déplacer notre personnage, l'autre dé qui nous permet de ramasser des invités qu'on peut rentrer dans notre hôtel, puis après ça, quand les invités s'en vont, ça nous donne de l'argent, puis on essaie d'améliorer notre hôtel pour que ça nous donne plus d'argent quand le monde vient là, plus on a un nombre d'étoiles élevées, plus les gens payent dans notre hôtel.
Oh.
Ce fait que c'est un classique aussi. Je dirais qu'il n'est pas parfait, mais il y a déjà cet avantage-là aussi d'être moins long et plus simple.
Quelle est la condition de victoire dans cet hôtel-là? Est-ce que c'est une quantité de gens qui passent?
La condition de victoire, c'est avoir un certain nombre d'argent, en fait, qui peut rapetisser si vous voulez une partie plus rapide. À chaque fois que tu payes pour améliorer ton hôtel, finalement, tu t'éloignes du montant que tu as besoin, mais ça te permet de gagner plus d'argent les prochains tours. Ça se peut qu'à un moment donné, ça soit pas à ton avantage d'augmenter l'hôtel, puis t'es mieux de juste continuer la partie pour essayer de gagner. Puis t'as un peu le même principe aussi, quand un autre joueur vient dans ton hôtel, il faut qu'il te paye aussi.
Ouais, on rentre dans le concept de risque-récompense, là, c'est-à-dire que je peux faire un achat qui est très, très, très risqué une fois rendu en fin de partie, mais qui va me permettre de faire vraiment beaucoup d'argent si je suis un peu chanceux, ou alors je peux décider de conserver la quantité d'argent que je suis en train de faire en ce moment, mais peut-être prendre le risque que quelqu'un me dépasse. On est un peu plus là-dedans.
C'est ça. Donc ça, c'est pour le « on se déplace, on donne de l'argent ». Moi, je dirais. Donc, d'autres aspects du jeu, mettons, de Monopoly, qui sont intéressants.
Qui m'intéresse, c'est l'aspect achat de maison, qui est un rêve que je ne peux plus accomplir.
Si c'est spécifiquement achat de maison, je dirais For Sale, qui est un bon jeu pour ça. Ça ressemble très peu au Monopoly, mais l'aspect achat de maison est là. Donc ça, c'est un jeu dans lequel, en fait, on a deux étapes à ce jeu-là. Une première étape dans laquelle on va acheter des maisons. Donc on a un certain montant d'argent au départ. On met un nombre de maisons au centre égal au nombre de joueurs, puis on va miser. Donc, en fait, non, c'est pas vrai. Il y a un aspect dans Monopoly. Dans Monopoly aussi, il y a un truc où on peut miser de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui joue avec cette règle-là.
Effectivement.
Donc, dans le fond, on va miser chacun notre tour. On peut augmenter les enchères. Et puis, finalement, à chaque moment, quand c'est notre tour, on a toujours le choix. Est-ce que j'augmente mon enchère par-dessus ce que l'autre a mis avant ou je décide de m'arrêter? Si je m'arrête, à ce moment-là, je paye juste la moitié du montant que j'avais misé jusqu'à maintenant. Et puis, je prends la maison qui a la plus petite valeur. Parce que dans le fond, chaque maison a une valeur différente. C'est pour ça que tu vas payer pour donc des chiffres de 1 à 35.
Ça a l'air intéressant, ça.
Ouais.
Il y a des mécaniques où ce qu'on peut s'amuser à, vous m'excuserez l'anglicisme, mais à brain ses amis. Là,
c'est exactement ça. Tu peux monter de l'argent parce que tu sais que tu vas abandonner le prochain tour, tu t'en fous de toute façon.
C'est ça, tu veux juste que les autres dépensent leur argent.
Ben c'est ça. Fait que c'est intéressant pour ça parce que l'argent, dans le fond, que tu n'auras pas dépensé aussi, va te servir à la fin de la partie parce que c'est encore un jeu dans lequel on veut le plus d'argent. Mm-hmm. La deuxième étape de ce jeu-là, c'est dans lequel on va vendre nos maisons. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu de miser de l'argent, dans le fond, c'est qu'on va mettre quatre, si ce sont des quatre joueurs, là, donc un montant d'argent, donc un chèque par joueur. Puis après ça, tout le monde a choisi une maison secrètement, puis on la révèle tout le monde en même temps. Fait que là, la personne qui a mis sa maison qui vaut le plus cher ramasse le plus gros chèque, la personne qui a mis la maison qui vaut le moins cher ramasse le plus petit chèque. Donc c'est vraiment beaucoup jouer dans la tête des autres puis essayer de penser, OK, c'est quoi que mon ami va mettre comme lui? Est-ce que je mets mon 34? Mais là, s'il met son 35, il va le ramasser, le 15 000. Fait que tu sais, je suis mieux d'y aller plus bas parce que ça sert à rien de mettre ma plus haute carte tout de suite. En tout cas, c'est ça.
Ouais. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte lesquels de nos amis sont secrètement des génies de la finance.
Ben oui, c'est ça. Puis tu le sais, c'est qui a le 35? Là? Tu sais que c'est lui. Mais là, la personne qui a le 35 aussi peut se dire, je le mettrai pas tout de suite parce que justement, là, ils vont penser que je vais le mettre. Fait que je vais mettre autre chose tout aussi. En tout cas,
c'est le fun. Il y a quand même des bonnes dimensions à ce jeu-là.
Ouais, ouais. Ça, For Sale, c'est un excellent jeu, je dirais. Moi, ça, c'en est un que j'aime bien. Expliquer plus dans le style bluff un peu, là, justement, dans ce dans lequel on va essayer de se mettre dans la tête de ses amis.
Ouais, c'est déjà un peu plus mon style de jeu. Moi, tout ce qui est bluff, j'aime beaucoup ça parce que, après, c'est pas une qualité qu'il faut donner en onde, mais moi, je suis un excellent menteur lorsque c'est nécessaire. Je m'en sers jamais, sauf dans les jeux de société. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Jackbox Party, Bidiot. L'objectif, c'est tu fais des œuvres d'art, puis toutes les œuvres d'art ont des thématiques qui se ressemblent globalement, et l'objectif, c'est de faire croire à l'autre que c'est une thématique qui vaut extrêmement cher. Fait que là, faut que tu mises, puis l'objectif, c'est de faire en sorte que les autres misent plus cher pour qu'ils achètent ta peinture à toi, qui vaut peut-être 300$, mais que je
dois te
faire
2000. Parce que toi, tu sais la valeur, mais en tout cas.
Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très, très le fun. Moi, c'est mon style de jeu plus. Par rapport aux autres jeux qui sont similaires au style Monopoly, est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu des grandes catégories?
C'est sûr qu'il y en a toujours d'autres. Là. Moi, je dis ceux-là que je pense rapidement. Je dirais un autre aspect peut-être du jeu Monopoly qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est le plus... La, euh, voyons. l'aspect échange. Parce que dans Monopoly, il y a beaucoup cet aspect-là aussi. À un moment donné, quand tu n'as plus assez d'argent ou tu veux vraiment... Parce que tu sais, le début, l'achat de terrain, c'est très au hasard. T'sais, on brasse le dé, tu te ramasses ce que tu es là, puis tu achètes tout ce que tu peux, parce que c'est ça la meilleure stratégie. Mais après ça, il faut que tu échanges les affaires avec les autres, parce que sinon, tu n'auras jamais trois trucs pareils pour pouvoir construire tes maisons. Fait que l'aspect échange est quand même important. Fait que si ça, c'est vraiment ça votre trip du Monopoly, que tout le reste est comme j'aime pas ça, mais quand on arrive pour les échanges, moi je fais des contrats, puis j'ai vraiment du fun. Ça, ça m'est arrivé une fois, ça. J'ai retrouvé dernièrement un contrat écrit d'une game de Monopoly avec ma sœur.
On a ressorti l'aspect compétitif non, de François. Ça. Là.
Fait que, est-ce que c'est Chinatown?
Encore à ce jour, elle a besoin de lui payer Chinatown.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'était pas des faveurs extérieures. Là. C'était à l'intérieur du jeu, là, mais c'était comme juste. Je voulais être sûr que genre c'était comme clair notre affaire.
Wow.
Mais j'ai déjà vu ça, par exemple. Ça m'est déjà arrivé au Randall de voir des gens faire. Pas un contrat, mais genre, je veux dire, m'a faire telle affaire qui n'a pas de rapport avec le jeu si tu fais telle affaire dans le jeu. En tout cas, à mon avis, c'est pas la méthode la plus saine.
Non,
de
gérer je suis d'accord.
Jeu de société.
Rendu là, t'as besoin d'un notaire pour faire tes parties. Là, ça devient un peu spécial.
Un aspect du Monopoly que moi j'aime, c'est la rareté des ressources. Donc, il n'y a pas assez de terrain nécessairement pour que tout le monde gagne. Il n'y a pas assez de maisons aussi. Quand on commence à construire, on voit bien qu'il n'y a pas assez de maisons puis d'hôtels pour tout le monde. Ça fait, la rareté des ressources, t'aurais-tu un jeu similaire?
Oui, par rareté des ressources, j'essaie de penser. Je pense à Catan, mettons, qui est un autre nouveau classique qui a aussi le problème de durer un peu trop longtemps, à mon avis. Ouais. Mais qui vient un peu chercher les deux aspects dont on vient de parler. Que c'est à la fois un jeu dans lequel on va faire des échanges avec les autres, mais c'est aussi un jeu dans lequel, au début de chaque tour, on lance 2 dés, on gagne des ressources dépendant de où sont placées nos maisons sur le jeu. Puis il y a toujours un maximum de 3 maisons par terrain. Des fois 2, dépendant de comment on les place. Ce qui fait qu'il y a un peu cet aspect-là de rareté aussi, puis que finalement, si moi j'ai toutes mes maisons sur les montagnes, que personne d'autre qui a réussi à avoir des maisons sur les montagnes, je vais devenir la personne qui a tout le minerai, puis je suis capable de faire des échanges, même si j'ai pas besoin de minerai, je suis capable de les échanger aux autres pour gagner les autres ressources que j'ai besoin.
Ouais. Catan aussi, qui est un jeu où il y a des compétitions et des championnats.
Ah oui, c'est un gros jeu.
Il y a une grosse communauté.
Ouais, c'est ça. C'est effectivement un des nouveaux classiques. Là, donc, je dis, donc c'est les classiques plus de début 2000 plutôt que ceux-là d'avant.
Ouais.
Puis c'est, je dirais, le plus connu, en ce cas, ou le plus au niveau compétitif.
Ouais, il y a une grosse communauté. Puis la présence du jeu de société Catan sur les réseaux sociaux, si tu suis un petit peu ça, c'est dur de pas le voir passer.
Ouais. Tu sais, moi, je pense que c'est ça. Il y a certaines faiblesses dans le jeu. D'ailleurs, moi, dans ma version, j'ai fait quelques petites modifications. Mais en fait, quand on joue avec certaines extensions, ça vient... tasser ces faiblesses-là.
Et vous, mesdames, est-ce que dans les jeux que François a mentionnés, il y en a qui vous intéressent un petit peu plus avant que l'on passe à la chronique de Maya?
Moi, je dirais For Sale, ça a l'air quand même le fun à jouer, puis le jeu avec les tapis, mais j'ai oublié le nom.
Marrakech.
Je te dirais que le seul que je connais, c'est Monopoly, puis ça fait genre 5 ans que j'ai pas joué.
Ah ouais? Ben, c'est ça qui arrive aussi. Comme je disais tantôt, c'est un jeu qui est trop long et plutôt complexe. T'sais, se lancer dans une game de Monopoly, il faut que ça nous tente. Là. Alors que For Sale, Marrakech, justement, c'est pas mal plus facile à sortir dans un souper de famille là, qu'un Monopoly.
Formidable. Et de ton côté, Maya, on n'est plus tout à fait dans le jeu de société, mais on est encore dans des enjeux de société. Peux-tu nous parler de ta chronique?
Oui, alors je vais parler de la série de BD. Pour l'instant, il y en a juste 2 qui sont sortis. E-L-L-E-S. Puis c'est un scénario de Kid Toussaint, puis avec des graphismes de Stockhart Aveline. Et pour parler un peu de l'histoire, je suis comme obligée de dire le synopsis de base.
Donc ça va un petit peu divulgacher.
Ouais, j'ai essayé de garder vraiment le synopsis de base parce que sinon, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans les 2 BD qui, j'essaye de l'expliquer, je risque de involontairement divulgacher certains éléments quand même importants de l'histoire. Donc, le synopsis, c'est elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle va intégrer dans une joie. Qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège, mais. Mercury. Mais se doute-t-il qu'elle n'est pas seule? Elle serait même plutôt 5. 5 personnalités hautes en couleur et pas toujours amicales. Qui est elle réellement? Puis en fait, ce que j'aime bien de cette histoire-là, c'est que c'est des BD qui sont quand même assez courtes. Puis ça se lit quand même bien. Quand j'ai regardé, c'était classé 9 ans et plus, mais j'ai quand même vraiment aimé ça aussi. C'est des graphismes vraiment cartoon, mais un peu 3D, puis avec des couleurs vraiment vibrantes, puis ça nous emmène vraiment dans une histoire un peu fantastique, mais en même temps vraiment réaliste.
Puis, on est dans l'ésotérisme.
Je dirais pas ésotérisme, mais c'est que le sujet un peu de l'histoire, c'est elle a un TDI, techniquement.
Trouble déficitaire d'identité pour nos
auditeurs. Ouais, exactement. Et justement, elle a 5 personnalités. Elle a la personnalité brune, qui est une personnalité timide, stressée, anxieuse. Il y a la personnalité verte, qui est une personnalité qui parle pas. C'est la personnalité la plus forte. Puis c'est vraiment, elle va vraiment plus réfléchir. Après ça, il y a la personnalité rose, qui est sa personnalité de base. Il y a la personnalité mauve, qui est la personnalité qui fait des blagues, puis qui est vraiment enjouée. Puis il y a la personnalité jaune, qui est vraiment la personnalité compétitive. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Puis aussi, il y a une autre personnalité qu'on voit arriver deuxième page, je pense, fait que ça... Okay. C'est pas le temps que ça, ouais.
Donc, lorsque l'histoire commence, on rentre tout de suite dans le... Ben, pas le délire, mais dans cet aspect-là où on voit que le personnage a une dissociation des personnalités. Là.
Ouais, exactement. C'est pas dit spécifiquement, mais c'est quand même expliqué que c'est ça qui se passe. Puis, il y a la sixième personnalité qui est la personnalité bleue, mais on n'en apprend pas vraiment sur elle dans les deux premiers tomes, mais je pense qu'on en apprend un peu plus dans la suite, mais elle n'existe pas encore.
Okay.
Puis... aussi, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'histoire est écrite parce que c'est écrit vraiment comme c'est une BD, puis c'est écrit vraiment il se passe telle affaire, il se passe telle affaire, ça amène ça.
On va droit au but.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de ah, oh, je m'en vais à l'école, voici ce qui se passe. Si je vais à l'école, c'est parce qu'il s'est passé telle affaire, puis c'est pour ça que je suis là. Puis c'est vraiment facile à comprendre, justement. Puis c'est pas très long, je pense que les deux BD font une centaine de pages à peu près. J'ai réussi à lire les deux en dans une heure à peu près.
Ouais, ben ça a l'air de bien se lire effectivement. Puis comme tu l'as dit, c'est encore apparition en ce moment dans le sens où ça a commencé. La première apparition était le 26 mars 2021. Est-ce que tu peux nous parler aussi des éditions? Ce sont les éditions Les Lombards, il me semble.
Ben je sais que c'est des éditions de Bruxelles, donc c'est français, donc c'est pas des traductions, fait qu'on peut pas avoir peur que ça soit une traduction douteuse ou une affaire de même quand tu le lis.
La seule différence va être au niveau culturel.
Ouais, c'est ça. Puis sinon, je saurais pas trop quoi dire d'autre sur les éditions.
Bah, c'est formidable, ça donne déjà un bon aperçu.
Mais je vois le dessus de la BD, là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu parlais des 5 personnalités, puis je les regardais en même temps, puis je trouve vraiment les expressions des 5 personnages. Dans le fond, c'est le même personnage, mais avec des cheveux de couleurs différentes, puis des faces différentes, puis on voit bien les personnalités dans les faces.
C'est ça qui m'a amené justement à acheter la BD. J'ai vu le dessus de la BD, puis j'ai fait « Oh, ça a l'air intéressant ». J'ai feuilleté un peu, puis ça m'intriguait avec les personnages qui se ressemblent toutes, mais qui sont pas les mêmes. Puis, ouais,
Je trouve ça intéressant aussi qu'on traite du TDI, puis qu'on traite ça un peu de la façon comme si c'était un super pouvoir, une super habilité, hein, plutôt qu'un handicap.
Ben, dans l'histoire, c'est comme un peu amené des deux façons.
OK.
Comme, quand t'avances dans l'histoire, t'apprends d'autres choses, mais là, je peux comme pas vraiment le dire.
Exact.
Mais, ouais, t'apprends vraiment des choses sur qu'est-ce qui lui arrive, puis pourquoi elle est comme ça. Puis, des fois, c'est un handicap, mais quand il y a des moments où tu vois qu'elle est dans sa tête, puis tu vois justement les mondes de chaque personnalité, puis c'est vraiment intéressant.
Fait qu'au final, ce qui est le fun, c'est qu'elle vient un peu parler de sujets qui étaient encore un petit peu tabous jusqu'à récemment. Et c'est ce qui fait du bien. Au final, ça se voit que c'est un livre qui est paru récemment parce que les maladies mentales, c'est un enjeu de société qui est très fort en ce moment. On doit malheureusement partir à la pause et on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Moi, j'en profite pour vous inviter à nous suivre sur la page Facebook et nous écrire. Donc, je vais placer mon email si jamais vous désirez commencer à faire des chroniques parmi nous, que ce soit venir parler de vos passions, de jeux vidéo, de bandes dessinées, de films, etc. Et si cela vous intéresse, d'ici les prochaines semaines, nous allons commencer à être un peu plus actifs sur les réseaux sociaux parce que je souhaite commencer à faire des activités avec les membres de The Kiwi et des Nerds. Donc, on s'en est déjà parlé quelques fois. On vous en donnera des nouvelles et on se dit à la semaine prochaine à notre rendez-vous à notre rendez-vous hebdomadaire des Kiwi et des Nerds les dimanches midi. Donc, nous allons, j'imagine, reprendre notre plage habituelle. Merci à tous.
Ah, je suis faite sans toi, et je ne peux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Funk Connection. Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.